France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous me permettez une confidence ? Le premier livre d'histoire de l'art que j'ai lu dans ma vie, c'est « L'œil du Quattrocento » de Michael Baxandall. J'aurais pu tomber plus mal, c'est un très grand livre qui fait l'histoire de la manière dont on a regardé la peinture de la Renaissance italienne et surtout l'histoire de ce que l'on fait avec ce que l'on voit. Or, je me souviens très bien de ma stupéfaction quand j'y lisais que les humanistes prenant toujours grand soin d'appliquer à chaque artiste un trait distinctif, pour Botticelli, c'était l'air viril. Viril ? Botticelli, vraiment ? Mais on ne nous a pas appris à le regarder ainsi. Depuis si longtemps, c'est même le contraire. Voyez Vasari, puisque c'est toujours avec Vasari que ça commence. Dans ses vies des plus excellentes peintres, en 1568, il ne voit sous le pinceau de Sandro Botticelli que suavité et douceur. C'est plein de vie, tout ça. Et travailler, dit-il, avec le plus grand amour. Et les quatre panneaux de l'histoire de Nostalgia degli Onesti, peint en 1483, figurant une chasse féroce où une femme se fait dépecer, des scènes charmantes et pleines de grâce, dit Vasari. Ah ben ça alors. Ah ben, allons-y voir. Bien entendu qu'il faut y aller voir. Entrer dans cette forêt hantée, affronter le mauvais rêve de Botticelli. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui avec Anna de Benedetti et Ivan Jablonka, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Hortense Bellotte. Car il nous faut comprendre pourquoi Laurent le Magnifique offrit en cadeau de mariage à Gianozzo Pucci et Lucrezia Bini pour qu'ils les aient dans leur chambre à coucher des peintures racontant cette histoire atroce que décrit Georges Didier Huberman.
L'histoire de Nostalgia degli Onesti, c'est une histoire de Boccace, où, alors curieusement, on voit dans une autre échelle, hein, ce sont des petits tableaux, on voit une sorte de Vénus. Naturellement, ce n'est pas Vénus, iconographiquement parlant, ce n'est pas l'histoire de Vénus, mais c'est quand même une jeune femme nue qui a le même genre de cheveux, la même couleur de cheveux. Enfin, elle, irrésistiblement, elle évoque la Vénus. Or, ce qui lui arrive est absolument terrifiant. Donc là, c'est-à-dire qu'on voit grosso modo une jeune femme nue qui court, poursuivie par deux chiens qui la mordent. Elle court dans une forêt et elle est aussi poursuivie par un chevalier en armes derrière elle qui lève une épée. Donc c'est une série de quatre tableaux. Dans le deuxième tableau, on la voit, elle est tombée par terre sur le ventre et le chevalier est en train de lui ouvrir le dos avec son couteau. Et on s'aperçoit avec horreur que sur la droite du tableau, ce que dévorent les deux chiens, c'est certainement le cœur et les entrailles de cette femme qui ont été jetées par le chevalier, comme ça, sur le bord du tableau. Puis bizarrement, très 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 bizarrement, derrière le cadavre de cette femme ouverte, de cette Vénus ouverte, eh ben on voit la scène précédente qui a lieu dans le fond du paysage. C'est-à-dire on voit la poursuite encore. Mais en tout cas, la première leçon à tirer, c'est qu'il n'arrive pas que des bonnes choses à Vénus, quoi.
Le livre de Georges Didier Huberman, Ouvrir Vénus, est paru chez Gallimard en 1999. Bonjour Anna de Benedetti.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de la Renaissance italienne. Vous avez débuté votre carrière au département des peintures du Victoria et Albert Museum de Londres, ce qui n'est pas rien. Et vous êtes actuellement directrice de la Fondation Bember à Toulouse. On vous doit notamment la grande exposition Botticelli du musée Jacques Marandré il y a 4 ans. Vous avez co-dirigé son magnifique catalogue paru chez Mercator sous le titre Botticelli, artiste et designer. C'était important, designer. Hein. Ça veut dire qu'il réagissait aussi à la commande, il avait un atelier. Et
alors,
donc, c'est les pas seulement ses images, mais les images de la société qu'on regarde.
Tout à fait. Et puis, il y a toute une partie aussi de délégation, de fonctionnement de l'atelier qui était l'enjeu de cette exposition.
Vous avez beaucoup travaillé sur l'atelier, justement, de Botticelli.
Exactement.
Yvan Jablonka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Nord, membre de l'IUF et éditeur, l'un des fondateurs et rédacteur en chef de La Vie des Idées, revue en ligne créée en 2007. Depuis, vous avez publié beaucoup de livres sur des sujets variés, mais si l'on voulait tirer un fil de votre œuvre, ce pourrait être celui pérequien, de la disparition. Celle des pupilles réunionnais en exil dans la métropole vous a renvoyé à l'histoire des grands-parents que vous n'avez pas eus, 2012, mais aussi à Laetitia ou la fin des hommes, prix Médicis 2016. Et depuis cette enquête sur un féminicide, vous avez écrit des essais sur la masculinité, des essais socio-historiques des hommes justes en 2019 et biographiques avec un garçon comme vous et moi en 2021, avant de publier cette année, toujours au seuil, La culture du féminicide, histoire d'une structure de pensée. Là, on parle d'une disparition, mais on va parler d'une apparition, parce que Botticelli, c'est une apparition. Vous vous souvenez de quand ça vous est apparu que cette histoire du féminicide était aussi une histoire visuelle, avec une image peut-être ?
Ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur l'histoire de Laetitia Perret, c'est tous les portraits d'elle qu'on portait à l'église, au moment de ses obsèques, et tout à coup, elle avait un visage. Mmh. Et c'était le visage d'une jeune femme martyrisée qu'on retrouvait après qu'elle eut disparu, démembrée, et son corps jeté dans des étangs. Ce qui nous ramène à cette image terrible de Botticelli, puisque c'est pas très différent de ce qui arrive à cette jeune femme poursuivie par un chevalier et ses dogues.
Alors on va la décrire justement, Anna de Benedetti. Je vous donne une image. En fait, il y en a quatre. Il faut comprendre que c'est effectivement quatre panneaux en détrempe. Est-ce que vous pouvez nous décrire ?
Alors ces quatre panneaux, puisque c'est un cycle, hein, évidemment, l'histoire elle-même est assez complexe. On est donc c'est une histoire du Décameron de Boccace, et l'histoire se situe au moment où des jeunes gens vont s'isoler de Florence, qui est ravagée par la peste. Et pour se divertir, ils vont se raconter des histoires. Et elles sont toutes relativement cruelles, mais elles correspondent aussi au chaos qu'ils sont en train de vivre. Et cette histoire-là, je pense que Botticelli en a vraiment popularisé l'imaginaire. Il s'agit donc d'un jeune homme. On se situe à Ravenne. C'est un jeune homme qui s'appelle Nastagio de Lioneste, et d'où le titre du cycle. Et il est amoureux. Il est amoureux, mais la jeune femme n'est pas réciproque dans cet amour, et donc il est très déprimé. Et il va aller dans une petite pinède qu'on décrit ici, avec ses arbres magnifiques. Et puis on voit sur le fond, évidemment, la baie de Ravenne qui s'ouvre avec la mer. Et pendant une pérégrination dans cette pinède, il va rencontrer un chevalier qui poursuit une jeune femme nue, qu'il rattrape, ses chiens la mettent à terre, il lui ouvre le dos et en arrache le cœur et les entrailles.
Ça, c'est une apparition.
C'est une apparition qui se joue devant lui comme une pièce de théâtre.
Oui.
Et les quatre panneaux de Botticelli sont d'ailleurs, à mains égards, construits comme des décors de théâtre.
D'ailleurs, on voit que dans le deuxième panneau que vous êtes en train de décrire, Anna de Benedetti, c'est comme un rideau de théâtre qui se déchire. Il y a une faille qui fend la forêt pour dire la blessure.
Et oui, et c'est d'ailleurs ce que Jordi Duberman soulignait, cette fente dans le ciel qui est comme un écho à la blessure elle-même dans le corps de la Vénus ouverte. Et en arrière-plan, la scène précédente, effectivement, le chevalier qui poursuit la femme, mais aussi la scène qui va suivre, puisque cette vision d'horreur, c'est en fait une malédiction. Et ce jeune homme, Nastagio de Lionesti, on le voit effrayé, vraiment empreint d'effroi. Et le chevalier...
C'est lui qui est à gauche.
C'est lui qui est tout à fait à gauche et qui se lève les mains d'horreur en disant, avec ce regard de fuite hein, devant cette vision d'horreur. Et le chevalier va lui expliquer... de quoi il s'agit. Et il lui dit, eh bien voilà, moi j'étais amoureux d'une jeune femme, elle ne m'a pas aimé de retour, j'en suis mort alors de chagrin ou alors de vexation, il en est mort. Et elle meurt elle-même quelques temps plus tard, et ils sont condamnés dans l'éternité, lui à la pourchasser, elle à le fuir, et lui à lui arracher le cœur comme elle... dans la vie, il lui a métaphoriquement arraché le cœur, puisqu'il en est mort. Et donc la scène que l'on voit derrière, juste derrière, c'est effectivement la scène qui précède, mais c'est aussi la scène qui suit, puisque dans l'histoire hein, et dans les panneaux suivants, eh ben, la jeune femme ressuscite, reprend sa course effrénée, le chevalier remonte sur son palefrenier et continue la poursuite. Et c'est une poursuite qui... et éternel finalement tous les vendredis.
Oui, c'est ça.
Le vendredi qui est le jour de Vénus.
Et on va voir comment le chevalier trouve une ruse pour revivre cette scène ou la faire revivre à sa fiancée justement, enfin celle qui n'est pas encore sa fiancée, qui s'était refusée à lui. On peut effectivement en faire une lecture littéraire, on doit le faire, il y a Bocasse, derrière il y a la littérature courtoise, il y a le cœur mangé, et en même temps Yvan Jablonkas, c'est terriblement banal. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme qui va tuer la femme qui se refuse à lui.
Oui, exactement. C'est une histoire dont le scénario est assez simple. Elle ne veut pas de lui, eh ben, il la tue. Il y a cependant plusieurs étapes. Il y a la poursuite sexualisée, parce qu'il faut rappeler qu'elle est poursuivie complètement nue par le chevalier et ses chiens. Ensuite, il y a le meurtre, le dépeçage de cette femme dite cruelle, mais en fait, il y a un renversement de la cruauté naturellement, parce que c'est pas elle qui est cruelle. Et une fois qu'elle a été dépecée, ses organes, ses viscères sont jetés aux chiens. Et donc ici, il y a un cycle qui est
en
toujours...
trois temps, toujours
oui,
les mêmes.
Et puis c'est surtout que c'est un cycle toujours recommencé. C'est le féminicide éternel. C'est le féminicide indéfini qui ne s'arrête jamais, comme un Sisyphe sanglant, comme un Sisyphe qui serait là pour tuer. C'est un meurtre qui recommence et c'est une bonne métaphore de l'histoire que j'ai voulu raconter à travers cette culture du féminicide. C'est donc un Sisyphe sanglant, mais c'est aussi un conte d'avertissement, parce que ce faisant, Nastagio va avertir sa propre femme cruelle, entre guillemets, celle qui se refuse à lui. Il va l'avertir lors d'un banquet qu'on trouve aussi sur un des panneaux de Botticelli. Il l'avertit en lui disant « Voilà ce qui pourrait arriver si tu continues à te refuser à moi. » Et c'est une manière, en fait, de prévenir sa bien-aimée. Et au-delà, toutes les femmes de Ravenne, il faudrait qu'elles se refusent un petit peu moins aux hommes. Voilà la leçon.
Très exactement la leçon explicite de la nouvelle de Bocasse, qui est quand même une nouvelle pénible à lire et difficile, ambivalente, parce que Bocasse, d'une certaine manière, on peut dire aussi que en 1350, dans le Décaméron, il est au maximum de ce qu'un homme peut concéder au féminisme. On le dirait ainsi aujourd'hui, Anna de Benedetti. Mais voilà, il y a ce coup de théâtre, puisque vous parliez justement d'une scène cruelle, ce coup de théâtre où la ruse de Nastagio, c'est de faire un banquet à l'endroit où il y aura cette apparition pour que la femme qui se refuse à lui soit avertie.
Oui, c'est une allégorie de la peur en quelque sorte, d'autant plus que Nastagio va renverser, en fait, retourner à son avantage cette vision d'horreur. Il installe ce banquet magnifique dans lequel il convie sa future épouse et la famille de sa future épouse. Et là encore, nouvelle pièce de théâtre. Là, les deux temporalités se rencontrent à nouveau. La temporalité de Nastagio et de la Ravenne du XIVe siècle, et puis celle de ce chevalier, ce cycle éternel qui apparaît et on voit le féminicide, le meurtre mis en scène. Tout ça dans le but de convaincre évidemment cette future épouse qui lui résiste. Et donc c'est quand même une histoire de consentement.
Oui, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là d'ailleurs où on retrouve Botticelli, designer, c'est que on raconte la première histoire, puisque le féminicide, vous le dites bien, Yvan Jablonkas, c'est à la fois un récit et c'est une image. C'est à la fois une structure narrative et c'est une culture visuelle. Mais justement, il y a Boccace et il y a ce qu'en fait Botticelli en 1483, sous la commande Botticelli et où son,
et
atelier,
son atelier
et son atelier, sous la commande de Laurent le Magnifique, qui veut décorer la chambre nuptiale de riches Florentins de ces scènes atroces. Et là, effectivement, il y a une histoire du regard, une histoire de l'éducation sexuelle, comme l'a fort bien montré Christiane Clapiche-Dubert dans ses grands livres sur le mariage florentin, par l'image dans cette société florentine de la fin du XVe siècle.
Oui, il faut imaginer une société saturée d'images. Et toutes ces images ont un rôle. Et ici, on est face à un exemplum, c'est-à-dire, pour la femme mariée, un avertissement, un modèle, tout comme la Vierge Marie va pénétrer aussi dans les foyers et devenir pour la femme du foyer un exemple de mère, mais aussi un exemple d'épouse. Et là, on est tout à fait dans cette optique-là, sachant que ce cycle a probablement été installé aussi dans la chambre nuptiale et qu'il raconte un banquet nuptial et qu'il est offert au titre d'une cérémonie nuptiale. Donc on a vraiment une mise en abîme des regards, le regard de la fable, le regard pictural dû à Botticelli, et puis le regard des personnes du Quattrocento, l'œil du Quattrocento, qui vont en tirer parti pour leur propre système sociétal.
Les ateliers faisant aussi beaucoup de cassoni, c'est-à-dire de coffres ornés, dont on a montré, toujours Christiane Clapiche-Dubert d'ailleurs, que c'était au fond des éducateurs sexuelle également, une manière d'habituer ces jeunes femmes florentines soumises à l'ordre des pères à la nudité et effectivement à cette culture du viol qui n'est jamais très loin.
Oui, on peut l'interpréter comme ça, mais d'autres histoires de Boccace ont aussi été peintes sur des devants de coffres de mariage, les fameux cassoni, notamment l'histoire de Griselde, qui elle aussi est un féminicide sociétal plutôt qu'un féminicide vraiment à dire vrai, puisqu'il s'agit de la séparer de ses enfants, de lui enlever toutes ses richesses et de voir si sa fidélité matrimoniale va durer. Elle endure toutes ses humilité pour ensuite être réintroduite dans le foyer parce qu'elle a résisté. Et on l'a donc ainsi testé, on a testé sa fidélité. Donc toutes ces images, tous ces avertissements sont là aussi comme des sortes de guides pour ces femmes qui ont dans le foyer le rôle d'être mère et épouse, hein, principalement.
Il y a un moment, Yvan Jablanka, en cette fin de 15e siècle, il y a un moment qui est ce que vous appelez justement les prémices d'une nouvelle culture gynocidaire.
Il y a un moment, en effet, on est en 1483 pour les panneaux de Botticelli qu'on est en train d'évoquer. Et quelques années avant, un an ou deux ans avant, Botticelli a peint La naissance de Vénus, qui est un de ses chefs-d'œuvre aujourd'hui à Florence. Et on voit que, on pourrait croire qu'il y a un contraste entre la naissance de Vénus qui naît des flots et cette scène qui nous choque aujourd'hui par sa cruauté barbare. Et en fait, si on suit Didier Huberman, on peut voir que c'est la poursuite d'un fantasme. Il s'agit toujours d'ouvrir Vénus, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est un motif c'est un scénario purement misogyne qui consiste à dire en substance à la belle femme « Tu crois que tu es belle avec tout ton prestige et ta morgue, mais en fait, on va t'ouvrir et il n'y aura en toi qu'un tas de viscères qu'on va jeter aux chiens. » Et ça, c'est un scénario qu'on perçoit de manière intertextuelle, enfin ou en tout cas inter-tableau, entre la naissance de Vénus et l'histoire de Nastagio, comme si ça révélait soudainement la part de cruauté et de sadisme avant la lettre qu'il y a dans le Quattrocento. Ce tableau permet d'inciser et d'ouvrir le corps féminin qu'on ne voyait que sous son apparence et sa surface nacrée dans la naissance de Vénus un ou deux ans plus tôt.
En 1491, écrivez-vous, Yvan Jablanka, Quétam publie à Venise un fascicule de médecine en latin où une femme fait voir ses intestins et son utérus. C'est aussi l'histoire de l'anatomie qui s'invite ici dans cette culture visuelle du féminicide. Et maintenant, maintenant on le voit, et je dirais même qu'on ne voit plus que ça, d'où effectivement le fait que cette œuvre de Botticelli, elle est maintenant ressaisie par la création contemporaine. Écoutez un petit extrait d'une vidéo de Charlotte Bayer-Brock qui a été tournée au Frénois en 2017, Les têtes de mort d'Arcana, une des nombreuses créations contemporaines qui se risquent dans cette forêt hantée de Botticelli.
Arcana, ton masque est un labyrinthe imprenable. Ne compte que sur tes paupières pour ne plus rien voir. Arcana, tu es sauve derrière ton masque. S'il te carbonise, éteins-toi. Si tu es éteinte derrière ton masque, ne crie pas. Déguise ton corps, si tu as un corps. Désobéis à ta voix, si tu as une voix. Ne crois pas à ton corps, si tu possèdes un corps.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Comment faire face à la culture visuelle du féminicide? C'est l'objet de notre discussion à partir de Botticelli. On voit bien, Anna de Benedetti, qu'aujourd'hui, évidemment, ce thème d'ouvrir Vénus devient inévitable, obsédant. Mais il y a toute une histoire, effectivement, de la variété des regards, c'est-à-dire qu'il faut imaginer une grande diversité de perceptions pour une œuvre qui, vous nous l'avez dit, de toute façon fait voir en même temps le passé, le présent et le futur.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le dernier panneau de cette série, on est dans le banquet final, la fin heureuse, on va dire. Le consentement a finalement été acquis.
Heureuse pour l'homme, pour le chevalier.
Voilà. Et il ne faut pas oublier que ces histoires sont faites dans un monde qui a été créé par et pour l'homme, en tant que masculinité. Donc la femme a forcément un rôle d'obédience à jouer. Et on arrive ici donc dans une actualisation, cette actualisation du banquet de Nastagio degli Onesti, mais qui va coïncider avec, dans cet art pictural, avec le banquet du mariage Puccini, donc, pour lesquels ils ont été commandés et offerts, et pour lesquels ils vont jouer évidemment un rôle d'exemplum, d'exemple, de modèle pour la femme, la future mariée.
On a une idée d'ailleurs de l'intention de Laurent pour parce que c'est quand même une commande assez étonnante, impressionnante. Botticelli, c'est pas non plus totalement. Il a déjà il a illustré Dante et c'est pas sans rapport avec la fameuse forêt des suicidés. Mais Boccace, c'est plutôt atypique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont même, y compris du point de vue de la commande du Quattrocento, assez étonnantes dans cette histoire, non?
Alors c'est une histoire complexe, puisque c'est une histoire multiscénique, c'est une histoire à plusieurs temporalités, à plusieurs niveaux de lecture également, et c'est ce dans quoi Botticelli excellait. Et c'est sans doute pour cela qu'on l'a choisi également pour réaliser cette histoire. Et c'est aussi une histoire politique,
oui.
Parce que finalement la forêt va bientôt céder à ces arches d'inspiration antique absolument magnifiques qui sont dans le dernier panneau, représentées dans le dernier panneau, qui font allusion évidemment à l'Arche de Constantin et à cette lointaine antiquité si chérie à l'époque du XVe siècle et qui veut non pas la pasticher mais recréer pour son propre compte un âge d'or. Et là, c'est sans doute une allusion, en tout cas certains historiens le pensent, une allusion à la lignée antique de Puccini, mais aussi au fait que les bonnes alliances apaisent la cité, font la paix de la cité. Et donc on a aussi ce message-là.
Violetta, interprétée par Léontine Price, La Traviata, acte 3, Verdi, 1853. Là, Yvan Jablonka, on y est.
On est à peu près 400 ans plus tard, et là, effectivement, c'est un des chants du cygne de Violetta, La Traviata. Au XIXe siècle, l'opéra occidental est intégralement féminicidaire. C'est une des clés narratives de l'opéra. Alors, il y a les féminicides réalistes, ceux qu'on voit sur scène. Par exemple, à la fin de La Flûte enchantée, la Reine de la Nuit et les Trois Dames sont foudroyées. Carmen, elle, sera poignardée. Ça, ce sont des féminicides directs. Mais il y a aussi un certain nombre de féminicides symboliques par lesquels la femme disparaît pour que l'ordre social revienne et que la femme trop émancipée soit ainsi châtiée. C'est le cas de La Traviata qui meurt fort opportunément d'une maladie de poitrine. C'est aussi le cas de Mimi dans La Bohème, de Mélisande, de Madame Butterfly qui, elle, se suicide. Bref, il y a une logique narrative qui permet au féminicide d'occuper cette place vraiment cruciale dans l'opéra, dans la grande tradition de l'opéra occidental. Et cette grammaire nous habitue, tel un horizon d'attente, à ce que la femme meure à la fin. Et d'ailleurs, dans tous les opéras que je viens de citer, la femme meurt et puis c'est fini. Et l'ordre social est revenu et on repart content.
Et le féminicide est un divertissement de masse. C'est un des titres du chapitre de votre livre, La culture du féminicide. Oui, ça c'est propre au 19e siècle, Anna de Benedetti, mais en même temps, il y a un rapport avec Botticelli. C'est d'ailleurs pour ça que le 19e siècle regarde à nouveau Botticelli. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu vraiment une grande éclipse de la postérité de Botticelli. Parce que d'une certaine manière, le féminicide social dont vous parlez, il a aussi dans la Florence du 15e siècle cette fonction de remettre de l'ordre dans la cité.
Oui, c'est la leçon finalement des panneaux de Nastagio de Leonesti, mais c'est la leçon d'autres panneaux d'ailleurs peints par Botticelli. Alors quelques années plus tard, on n'est plus dans la littérature vernaculaire de Boccace, on revient aux histoires romaines, et c'est inspiré de Tite Live, l'histoire de Lucrèce, l'histoire de Virginie. Virginie qui est tuée par son père pour qu'elle échappe au viol, et Lucrèce qui, elle, violée, va se suicider pour rétablir l'ordre social. Donc on a deux cohésions qui s'expriment de façon différente, mais le résultat est le même, qui finalement se sert du corps de la femme comme d'un exutoire pour que l'ordre enfin puisse revenir.
Et ça, c'est évidemment un thème iconographique, notamment le viol de Lucrèce qui va être repris ad nauseam par la peinture Pompier du 19e siècle. Écoutez Mathilde Laichelet, qui est doctorante à l'Université de Paris-Cité et qui prépare actuellement une thèse sur images et imaginaire des violences sexuelles faites aux femmes, 1857-1908. Elle parle d'une grande huile sur toile d'Alexandre Cabanel, 1860, qui s'appelle Nymphe, enlevée par un faune qui est conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille.
Dans un paysage à la lisière d'une forêt, un être mi-homme, mi-bouc agrippe une femme qui se débat. Le titre nous dit qu'il s'agit d'une nymphe enlevée par un faune, un satyre. Mais de quoi s'agit-il vraiment ? D'une tentative de viol ? Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude de casser l'ambiance en soirée. La nymphe, plutôt que nue, est dénudée par l'assaillant, en atteste le drapé blanc qui souligne son corps. Au centre de la composition, le doigt brun du satyre se rapproche, en contrastant sur la peau rose, de l'orifice du nombril de la nymphe. Alexandre Cabanel est un peintre célèbre et célébré au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. L'œuvre est un succès. Elle est achetée par l'empereur Napoléon III et le critique Théophile Gautier se rêve à la place du satyre. Il dit aussi que le sourire de la nymphe, bon, il faut le chercher, montre que sa résistance n'est pas bien farouche. Ma thèse porte sur les images et imaginaires des violences sexuelles faites aux femmes en France au XIXe siècle. À cette époque, le satyre est un être mythologique, mais aussi très contemporain puisque les violeurs sont souvent caricaturés en satyre dans la presse. Qu'en est-il des victimes ? Au cœur de mon étude se trouve la question de la résistance des femmes et sa perception. L'imaginaire de la résistance inutile ou feinte, hérité du XVIIIe siècle, est très présent. De nombreux traités de médecine légale affirment qu'une femme adulte agressée par un homme seul peut se défendre si elle le souhaite, et que donc, si elle a cédé, c'est qu'elle le voulait bien. La résistance serait ainsi un jeu érotique. Enfin, ne dites pas ça aux femmes du début du XXe siècle qui apprennent à terrasser leurs assaillants dans les manuels de self-defense. Et que se passe-t-il dans l'atelier des artistes au moment de la création? Les modèles sont-elles, elles aussi, violentées? Bien avant les autoportraits de Pablo Picasso en Minotaure, les artistes du XIXe siècle se représentent eux-mêmes parfois en satyre. Ils se fantasment donc monstrueux et poilus en train d'essayer de violer des nymphes. Ça, bien sûr, Freud adore. Je ne sais pas quels sont vos hobbies, mais moi, je passe mes journées à regarder des peintures et des sculptures, à dépouiller des titres de presse d'il y a 150 ans et aussi à lire un critique, Armand Silvestre, commenter pendant plus de 10 ans ses représentations de femmes nues préférées. Bon, mon but n'est pas de faire le procès des artistes du passé, ce serait anachronique. Mais il paraît que l'habitude nous rend aveugles. Ce que je veux faire dans ma thèse, c'est contribuer à mon tour à dessiller les regards.
Ça a duré 180 secondes et on comprend pourquoi Mathilde Laïchelet a gagné un prix du concours « Ma thèse » en 180 secondes. Mais oui, on ne peut pas s'habituer à cette culture visuelle du féminicide et en même temps, on doit s'interroger, Yvan Jablonka, quand on a, comme vous, comme elle, collecté et donné à voir aussi dans un livre tant d'images atroce. On se pose des questions, non, sur ce qu'on fait et pourquoi on fait ce qu'on fait.
C'est vrai que c'est assez pénible, mais de toute façon, c'est la fonction des historiennes et des historiens. On est habitué, et puis il y a peut-être ce qu'on devrait appeler un blindage psychologique qui nous permet de travailler aussi bien sur les féminicides que les génocides. Mais j'ai voulu montrer dans mon livre qu'il y avait une cohérence visuelle très forte qui permettait d'établir une filiation de Botticelli jusqu'au film d'horreur ou d'épouvante contemporain, en passant par les Vénus en cire, dont on peut comme ça déplacer les organes à l'envi au XVIIIe siècle, et en passant
une structure de pensée. Pardon, je vous coupe la parole, mais ça s'appelle histoire d'une structure de pensée. Donc c'est quand même voilà une proposition forte sur l'idée que tout ça, ces récits et ces images, nous conforment.
Je crois qu'il y a une structure de pensée, en effet, et cette structure de pensée, c'est un petit manuel pour se débarrasser des femmes. Voilà, le rêve de tout misogyne. Comment faire une société où il n'y aurait plus de femmes? Eh bien, la culture du féminicide répond à ce rêve dévoyé, puisque à travers des féminicides réalistes ou symboliques, on a une société dont les femmes ont été retranchées de manière souvent sanglante, et en trois étapes. D'abord la sexualisation, ensuite le meurtre, et puis la mutilation. Qui peut arriver de manière antémortem ou post-mortem. Et ces trois séquences, on les retrouve vraiment de manière immédiate dans le tableau de Botticelli, puisque oui. La poursuite, elle est sexualisée, puis vient la mort, puis vient la mutilation, et cela de manière infinie, indéfinie. Ça revient tout le temps, et c'est pour ça que c'est une métaphore de notre culture.
Mais voir pour se dessiller, c'est vrai, pour aussi riposter, on va voir comment, d'une certaine manière, des artistes, et pas seulement des artistes, s'emparent de cette culture pour la détourner. Et ce va-et-vient entre le 19e siècle et le 15e siècle, il se poursuit, puisque cette culture génocidaire dont vous parliez, mi-15e, c'est le début aussi de la chasse aux sorcières, et évidemment, aujourd'hui, les cultures féministes, mais pas seulement elles, le regardent différemment, ce moment féminicide.
Dans les années 1480, effectivement, outre ces tableaux de Botticelli, il y a la parution d'un livre qui s'appelle « Le marteau des sorcières » et qui est un manuel pour détruire la sorcellerie. Selon certaines régions, c'est 70-80% de femmes parmi ces sorcières. Et ce manuel, qui aura un grand succès dans la vallée du Rhin et au-delà, montre comment le féminicide devient une autre structure de pensée en lien avec le politique et la religion de son époque. Et ça permet de tuer la femme trop libre tout en l'humiliant à travers son sexe, puisqu'on sait que les sorcières, avant d'être brûlées, étaient aussi investies, incisées, parce qu'ils s'apparentent comme un viol simple ou symbolique.
Anna de Benedetti, on a parlé de cette historicité du regard porté sur l'œuvre de Botticelli. Quand il est redécouvert au XIXe siècle, c'est avec cette charge très érotisé, très morbide, ou ça reste encore dans cette suavité que Vasari nous a appris à voir, alors que d'évidence, elle n'est pas là.
Alors non, il est redécouvert pour ses madones merveilleuses.
Toujours.
Et c'est pour ça qu'il est redécouvert. Ce mouvement-là est accompagné, du moins en France, d'une volonté de revenir aux origines du christianisme. Et donc on trouve dans ces images avant Raphaël, ce dont va s'emparer bien sûr le mouvement pré-raphaélite anglais, qui est le grand redécouvreur de Botticelli en Angleterre, cette pureté, cette suavitude propre aux images religieuse. Et donc, le féminicide, il a cette contrepartie de cette Vierge Marie qu'on va adorer, qu'on va prendre comme modèle, qu'on célèbre aussi, qu'on va presque domestiquer, puisqu'on va la voir au sein du foyer. Et la femme, évidemment, elle n'est pas, à mon avis, anéantie par ce féminicide. On essaye juste de la canaliser. Et c'est toujours dans cet ordre social qui est dominé par le masculin. Donc, le sacrifice d'une partie des femmes sauve le reste. Et la conclusion de Nastagio, c'est qu'il y a un happy end.
Oui.
Il y a un mariage.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir. Engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Tout ça pour arriver au pire des tableaux, chante Zao de Sagazan, les dormantes 2022. Bah oui, il y a un happy end pour Nastagio, mais il ne nous convient pas tout à fait. Alors on va continuer, on va chercher un autre happy end, peut-être avec vous. Bonjour Hortense Bellotte.
Bonjour Patrick Boucheron.
Alors, vous venez avec quoi dans votre besace?
Là tout de suite, pas une happy end. Ah, bon, je suis désolée. Je cherchais une image à ramener à nos invités et je me suis souvenue d'un film que je ne vous conseille pas du tout. mais qui tombait très bien. C'est Le syndrome de Stendhal de Dario Argento de 1996.
Oui, il en parle, Yvan Jablonka. De...
Alors oui, vous parlez de plusieurs films d'Argento, Yvan Jablonka, mais pas de celui-ci précisément. Vous parlez d'Argento d'ailleurs comme un des piliers de la culture du féminicide à l'écran. Et ce film-ci raconte l'histoire d'une détective à la poursuite d'un violeur et tueur en série qui fait un malaise à la Galerie des Offices à Florence face à des toiles de grands maîtres italiens, dont Botticelli, de quoi recouper toutes vos passions, Yvan Jablonka et Annette Benedetti, ici. Alors le problème, c'est que dans ce film, eh bien, le syndrome de Stendhal, ce choc esthétique face à la beauté des œuvres florentines jusqu'à l'évanouissement du nom de l'auteur français qui raconte en avoir été victime en 1817, glisse rapidement vers un syndrome de Stockholm sous GHB, avec des scènes de viol et de meurtre difficilement regardables aujourd'hui, sur fond d'érotisme post-freudien, d'autant plus gênant que le rôle principal est tenu par la fille du réalisateur, Asia Argento, régulièrement violée par le méchant blondinet sexy.
Oui.
Je ne limite pas le film à ça, mais il y a quand même ça dans le film. Tout au long du film, moi, en tant que spectatrice, j'ai attendu une sorte d'échappatoire. Je cherchais un peu péniblement un élément à m'approprier, à retourner, à détourner, un personnage secondaire, peut-être une coupe de cheveux, un costume, n'importe quoi, qui puisse faire levier, un trombone, qui permette de sauter en marche de la voiture du patriarcat, mais non. Il n'y en a pas tellement dans ce film. Et la séquence finale des policiers portant la jeune femme en pleurs, comme un tableau vivant de la ronde de nuit de Rembrandt, dont le poster de la chambre d'hôtel avait servi de décor à la première scène de viol, ferme le film sur lui-même, c'est-à-dire un monde d'hommes. Et j'avoue que j'ai été un petit peu traumate par ce film. J'ai mis du temps à m'en remettre. Et c'est peut-être ça, le syndrome d'Argento, ou le syndrome d'autres cinéastes d'ailleurs. Hein. Mais je me suis vraiment demandé si je n'aurais pas préféré ne jamais avoir vu ces images. Comme si, au lieu d'exciter la part la plus sombre et inavouable de mes fantasmes, que je préfère ne pas évoquer en ce dimanche après-midi familial, il était plutôt venu réveiller la terreur ancestrale inscrite dans le corps de chaque femme, à qui on a appris qu'elle était une proie potentielle et que n'importe laquelle de ses actions ne serait jamais qu'une réponse plus ou moins violente à cet état de fait premier. Il venait d'un coup, Argento, foutre en l'air les années passées à me libérer de cette servitude à coups de récitation de Monique Wittig, la cyprine, la bave, la salive, la morve, le sang, les larmes, comme autant d'Ave Maria, pour me réapproprier un corps lesbien, disloqué, démembré et meurtri par la culture dominante. Oui, je ne vous le conseille pas.
Non, mais c'est ça. Mais alors, moi, je ne sais pas quoi dire de ça, Yvan Jablonka, parce que vous en parlez aussi de cette culture cinématographique du féminicide. Ça va très loin, enfin jusqu'à nous, largement. Il est désespérant, votre livre ?
Je ne l'ai pas écrit comme ça. Je l'ai écrit comme un instrument de libération pour dessiller nos regards et pour nous faire redécouvrir, relire des œuvres sous un nouveau jour et peut-être s'en libérer, en tout cas se libérer de cette part sombre tout à l'heure que vous évoquiez et qui figure aussi bien chez Bizet que chez Debussy, Hitchcock, Picasso, Fritz Lang, car la culture du féminicide, c'est notre culture tout court. Nous y baignons, nous en sommes imprégnés, c'est cette violence banalisée, cette sauvagerie civilisationnelle qui est un petit peu le plasma dans lequel nous baignons et nous avons grandi. Donc cela n'a rien de glauque, c'est un livre qui est certainement pas joyeux, mais je crois qu'il est nécessaire et qui permet de dessiller notre regard et d'être sensible à la cohérence d'un imaginaire qui, sinon, nous emprisonne.
Parce que quand même, Hortense Bellotte, on se pose la question, là vous avez parlé de ce film que vous auriez peut-être pu ne pas voir, est-ce qu'il faut montrer, est-ce qu'il faut pas montrer ? C'est la question qu'on se pose, notamment au cinéma.
Et la question aussi de la beauté,
oui.
Parce que la beauté est très séduisante. Et c'est vrai que des bons films ou des belles œuvres sont faites aussi pour nous amener sur des terrains parfois un petit peu chaotiques. Et heureusement, je me suis souvenu d'un autre film, un court-métrage que j'ai vu il y a quelques années, qui s'appelle « Reconstitution d'une scène de chasse », court-métrage de Patricia Alliot, en 2019, où elle interview Catherine Robbe-Grillet, maîtresse sadomasochiste hors d'âge, qui raconte une mise en scène de chasse dans un parc qui lui a été demandée par une cliente. Et pour reconstituer cette scène de chasse, en fait, on a les textes de la cliente, on a les mots de la Domina qui relate, et on a les images de la réalisatrice où elle fait une sorte de montage où elle utilise à la fois des extraits de Belle de jour de Buñuel et aussi énormément la fameuse chasse de toujours. Botticelli qui sert un peu de trame de fond visuelle à cette reconstitution. Et de fait, tous ces fragments nous permettent de reconstituer sans montrer directement cette séquence sexuelle. Et on a ces trois femmes, la réalisatrice, la Domina, l'actrice principale, au service d'un désir complètement hors norme, mais qui va rester hors cadre. Et de fait, qui va me permettre à moi, en tant que spectatrice, de m'approprier éventuellement ce fantasme et de peut-être même m'autoriser à le vivre par procuration.
Mais oui, mais vous avez raison. En fait, toute cette question qu'on ne peut pas totalement évacuer et qu'il faut même peut-être affronter, Anna de Benedetti, c'est la question de la beauté. C'est la question de la beauté parce que ça a été montré aussi dans des études récentes sur le viol de Lucrèce, c'est-à-dire comment faire d'un supplice un objet de contemplation. Et quand même, les panneaux que l'on voit qui sont somptueux aussi dans le mouvement, vous en avez parlé, cette architecture extraordinaire de la forêt qui se meut à l'arrière-plan, ces architectures, ce grand cinéma aussi de ce qui est donné à voir, ça participe de notre trouble inévitablement.
Oui, et puis toute nudité à la Renaissance est un attribut, il qualifie. C'est pour ça qu'on peut représenter une femme nue, c'est parce qu'elle est en guise de déesse et que l'attribut de Vénus, c'est sa nudité. Ici, la question de la nudité de la femme qui est pourchassée et qui, je le signale, n'a pas de nom, comme la jeune femme qu'aime Nastagio n'a pas de nom. Elle est habitée finalement par sa féminité. Et elle est une Vénus dans ce sens où Vénus est l'archétype de la femme, de la féminité. Donc effectivement, plus c'est beau, plus on a envie de l'abîmer. Et plus c'est dérangeant, et plus on a envie de la ranger, en quelque sorte.
Yvan Jablanca.
Alors effectivement, que faire de toutes ces œuvres, de ces opéras, de ces toiles, de ces cinémas, de ces films ? Mon principe n'est pas de les jeter à la poubelle. Je pense qu'on peut pas se séparer de tels chefs-d'œuvre et qu'il faut au contraire se tourner vers l'avenir pour créer autrement à l'aide de ce que j'appelle une contre-culture du féminicide. Et Zoé de Sagazan ou Sofia Isella ou Clara Luciani nous montrent la voie parce que ces jeunes artistes chantent les violences sexuelles, mais autrement. Avec empathie, avec une exigence de vérité et en associant leur créativité, leur colère et leur militantisme. Et ça, je crois que ça peut être cette contre-culture du féminicide nous permet d'en parler. Parce que tant que des femmes seront assassinées, il faudra en parler. Mais d'en parler autrement, sans être ni voyeur ni complice.
Et puis il y a effectivement des œuvres qui nous permettent de penser un avenir où la femme échappe à la chasse. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup, beaucoup de réactions indignées d'auditrices, d'auditeurs qui disent « Mais enfin, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de carte postale de Mathieu Pot-Bonneville avec une critique très dure contre le service public. » Mais si, elle arrive, écoutez-la, et justement, elle tombe à pic.
Vous allez écrire un livre.
Un livre ? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, vous savez ce que c'est, vous, de vivre avec la peur ? Redouter les métamorphoses de votre tourmenteur, voir croître son désir de vous vouloir du mal. Vous savez ce que c'est de n'être en sûreté ni dedans ni dehors, parce que à l'extérieur vous serez suivi, repéré, surveillé, parce qu'à rebours votre intérieur n'offre plus ni recoin ni abri, il paraît déjà écarquiller ses murs pour ne rien manquer des violences à venir. Et avez-vous déjà éprouvé cette détresse de savoir que vos appels au secours ne trouveront ni alliés, ni témoins, comme dans ces chambres sourdes où d'être entièrement absorbé par les parois, votre propre voix vient s'éteindre à vos pieds sans parvenir à vos oreilles ? Non. Vous ne savez pas. Et moi non plus. C'est une des grandes inégalités du monde que les vies y soient distribuées à raison de leur genre ou de leur race supposée, selon un gradient implacable qui les expose plus ou moins au risque de croiser un jour la route du meurtre et de l'exultation d'autrui. Encore faut-il éprouver cet écart. Ne pas se rassurer trop vite à l'idée que chacun pourrait se mettre à la place de tout autre. Encore faut-il savoir que nous ne savons pas. Et cela, figurez-vous, nous le savons un peu mieux depuis 1979. Cette année-là, sort sur les écrans un film où se déploie toute l'expérience que je viens d'énumérer. L'éclosion d'une menace et la transformation de ses formes, la certitude de la mort dans l'imprévisibilité du moment où tombera l'attaque, l'inanité de la distinction entre ce logis devenu votre cage et le vide qui l'environne, la détresse de voir chaque tentative de fuite reconduire au lieu du supplice. Au fronton du film figurait une formule qui ne serait pas restée aussi célèbre si une vérité n'y était pas enclose. Je la cite « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Réalisé par Ridley Scott, qui tournera Thelma et Louise 10 ans plus tard, Alien, le 8e passager, est un morceau de science-fiction horrifique, un film de genre, comme on dit. En l'espèce, l'expression tombe juste, car de genre, il ne cessera d'être question dans ce récit, où les formes du vaisseau, comme celles de la créature, sont un pandémonium de côtes saillantes, de crânes luisants comme des seins, et de phallus dentés, où le masculin et le féminin s'enroulent l'un dans l'autre. C'est un film, surtout, qui, s'il paraît d'abord dérouler la fable de la femme poursuivie pour être possédée et dévorée, tourne tout autrement. Surtout, il gâte d'emblée la jouissance masculine en mettant en scène la pénétration buccale puis l'accouchement par éventration de l'un des officiers mâles du vaisseau. C'est ainsi que la traque commence. Alien ne se contente pas d'introduire avec le personnage de Ellen Ripley, incarné par Sigourney Weaver, l'idée alors nouvelle qu'une femme puisse survivre et n'ait pas à être une victime pour être désirable. Le film retourne vers le spectateur masculin l'angoisse qu'il promettait d'infliger. Il désoriente tout l'éventail des identifications. Il propose un jeu à se faire peur, mais où la peur changerait de camp. C'était en 1979. Louise Bourgeois, à presque 70 ans, préparait alors sa rétrospective au MoMA. Depuis des décennies, son œuvre, traversée par la mort de sa mère et les faiblesses de son père, n'avait pas attendu Alien pour dérouler une immense procession de sculptures chitineuses où les phallus se nomment fillettes et où les grandes araignées aux pattes minces, veillant leurs œufs, gagnent le droit, comme le vaisseau du film, d'être appelée maman. En matière de gouffre, Patrick, il faut croire que cette femme artiste avait une toile d'avance.
C'était la mère Michel qui a perdu son chat.
France Culture.
Écrit par la fenêtre qui me le rendra. Et le père Lestucru qui lui a répondu.
Allons-y voir.
Oui, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu.
Patrick Boucheron.
On n'en attendait pas moins du directeur du département culture et création du Centre Beaubourg de commencer à nous acheminer vers une happy end. Parce qu'il y a un monde, oui, Hortense Bellotte, où les femmes pourchassées dans les forêts infernales ne sont pas livrées à la contemplation obscène. Il y a un monde où ça peut se finir pas aussi mal que sous le pinceau de Botticelli.
Et j'ai repensé effectivement, en voyant le sujet d'aujourd'hui et ces tableaux, à une affaire en 2018 qui était le meurtre de Vanessa Campos, travailleuse du sexe, âgée de 36 ans, d'origine péruvienne, transsexuelle, qui a été assassinée au Bois de Boulogne par plusieurs hommes et qui a été un cas, le seul cas de transféminicide qui a été porté jusqu'aux assises et qui a posé un autre problème, un petit peu en marge, c'est qu'au moment de cette affaire, Paris Match avait publié un article qui s'intitulait « Les nuits fauves du Bois de Boulogne » en diffusant une image du cadavre de Vanessa Campos, chose très rare normalement dans les médias, et qui s'est justifiée ici par le fait qu'elle était étrangère, certainement par le fait qu'elle était prostituée, et certainement aussi par sa transsexualité elle-même, allant dans une sorte de voyeurisme morbide
Et l'association Accept ST avait à ce moment-là financé les avocats pour que la famille puisse se porter partie civile. Et Paris Match a été condamné à payer la somme de 12 000 euros et à retirer cette photo de la publication. Et Giovanna Rincon, la directrice d'Accept ST, appuie l'idée que cette intériorisation par toutes les femmes trans, travailleuses du sexe, de la potentialité de la violence, est aussi une des luttes symboliques qu'il faut exercer pour sortir de cette espèce de culture de la peur, justement, que vous évoquiez, et de la martyriologie.
Oui.
On n'a pas besoin d'un cadavre mutilé pour exister et pour se sentir puissant.
Yvan Jablanca.
Je suis content qu'on rende hommage à Alien ou à Thelma et Louise, parce que pour moi, ce sont des films qui retracent une épopée de l'émancipation à travers ces héroïnes qui, de créatures chassées, deviennent des chasseuses. Et c'est elles qui finissent par mettre en déroute les agresseurs ou les créatures qui viennent les menacer dans leur intégrité. Donc ces deux films, enfin ces héroïnes, Ripley, Thelma et Louise, ces films offrent un manuel de survie. Et je crois que c'est très exactement la définition de la contre-culture du féminicide.
Hortense.
Oh ben, moi, j'ai la dernière réplique de Thelma et Louise tatouée sur l'épaule. Hein, donc, je valide entièrement. La réplique, c'est « keep going ».
Keep going. C'est pas exactement, effectivement, ce qu'on voit dans Botticelli, Anna de Benedetti. On peut pas dire que ça soit un peintre de l'émancipation. Et pourtant, ça vaut la peine, quand même, de le regarder, ne serait-ce que pour comprendre jusqu'où peut aller notre désir de beauté. Je pense que c'est ça qu'on a retenu aussi. C'est le fait que la beauté n'est pas amnistiante.
Absolument, et on peut reprendre aussi les mots d'Abby Warburg qui parle de pathos formel dans la peinture de Botticelli, qui est cette espèce d'empathie, d'émotion qui se dégage et qui fait que le spectateur peut interagir avec l'image. Et j'aimerais juste finir sur une note d'espoir, puisque revenant à la culture humaniste, la femme peut être également pourchassée en tant que femme inatteignable, beauté inatteignable, et c'est la leçon que nous donne Dante dans La Vita Nuova et surtout dans La Divine Comédie, mais aussi Pétrarque, Béatrice, Laure sont des femmes qui sont un guide que le poète va pourchasser et ne jamais atteindre dans leur beauté absolue.
Elle ouvre les yeux et regarde à terre, peureuse elle regarde à terre, il lui promet que c'était la dernière et elle ramasse ses affaires pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre et c'était pas la première. La première crise, si c'est vrai, tu ne lèves jamais la main. Tu seras un très bon père et meilleur sera demain.
Et... C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Anna de Benedetti, Yvan Jablanca et Hortense Bellotte. Les références de vos parutions, de vos livres, sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
Et ça va sur elle. Personne ne voit son jeu.